Entre humus et soufre, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.
Salut! C'est entre soufre et humus, une demi-heure à passer ensemble pour réfléchir autour des enjeux écologiques, pour questionner les pratiques humaines et pour imaginer surtout des demains moins tragiques que ne le laissent prévoir les écrans quand ils examinent l'état du monde. C'est sur FM+, et c'est votre rendez-vous écolo-protestant. Entre soufre et humus, vous êtes, soyez les bienvenus. Lors de notre dernière émission, nous étions allés fouiller du côté d'un récit mythique au tout début de la Bible, les trois premiers versets du premier chapitre, du premier livre. On avait vu que, dans ce récit, il ne fallait pas prétendre démasquer le début, l'instant zéro du monde. Ce n'était pas son propos. Que son propos, c'était plutôt la mise en langage du monde, la mise en langage humain, sa mise en mots, on pourrait presque dire sa mise en scène. Et dans ce récit, à ce moment-là, la première chose qui saute à l'œil, c'est que quand Dieu crée, eh ben, il y a déjà de la nature. Mais c'est une nature sans mots. C'est une nature indéchiffrable. C'est une nature impossible à habiter. C'est une nature qui constitue un réel, mais hors de notre langage. C'est pour ça que, bibliquement parlant, on ne peut pas confondre la nature et la création, ce serait un contresens. Et scientifiquement parlant, la nature était là bien avant nous, et elle le sera bien après. Surtout, si nous continuons à nous comporter comme nous le faisons, comme des barbares, en la prenant en étau entre nos perspectives de guerre nucléaire et puis le matelas de déchets que nous accumulons et que nous amoncelons et qui va bientôt finir par constituer à lui seul un nouveau continent. Nous allons nous étouffer sous nos plastiques, mais la nature, elle subsistera et elle se portera sans doute un petit peu mieux après notre passage. Si nous cherchons et si je cherche à distinguer nature et création, ce n'est pas seulement parce qu'il faut être conforme au texte biblique, mais c'est qu'il y a un enjeu derrière. Et cet enjeu, eh bien, c'est que la nature n'est pas sacrée. Et ça, c'est une chose assez difficile à faire entendre aujourd'hui dans les milieux chrétiens, parce que face à la crise écologique, eh bien, les quelques militants sensibilisés à l'écologie parmi les chrétiens ont cru pouvoir justifier et amplifier leur lutte, leur combat, en opérant ce glissement sémantique, de la nature à la création. Face à l'indifférence et aux réticences des chrétiens, la majorité des chrétiens, parler de la création plutôt que de la nature, c'était la revêtir d'un manteau un peu sacré, la revêtir d'un manteau un peu plus respectable. Ça se comprend, mais je crois que c'était une erreur, je crois que c'est toujours une erreur. Car si le combat est juste, s'il faut nous mobiliser et agir et vite, et ne pas se contenter d'actions individuelles, puisque c'est tout le système qui est à remettre en cause, si le combat est juste, ce n'est pas par de mauvais moyens que nous y parviendrons. Je disais que c'était tout le système qui était à revoir, économique, notre mode de vie, mais aussi la façon de partager le monde, la façon de le financer, la façon de le partager. Alors bien sûr, chacune et chacun, on peut prendre notre part, faire attention à l'eau du robinet quand on se lave les dents, faire attention à la façon dont on trie les déchets, c'est très bien et c'est indispensable. Mais on comprend bien très vite que l'ampleur de la tâche déborde et de très loin les gestes du quotidien. Et il ne suffit pas non plus de se décharger sur les gouvernants, parce que les gouvernants, écoutez, on a ceux qu'on mérite. Et d'ailleurs, quand il leur arrive de prendre des décisions qui iraient plutôt dans le sens du respect de notre habitat naturel, eh ben, on sait bien que ça soulève les masses. Ça fait un soulèvement populaire. On feint d'opposer, soi-disant, les fins de mois et les fins du monde. Mais comme si ça n'allait pas ensemble. Cependant, je tiens que ce n'est pas en faisant du combat une cause sacrée qu'on va lui donner la place qu'il mérite et qu'il réclame. Lost in the jet, the lonely stream, a bitter sip, light. Les causes sacrées, elles deviennent bien trop souvent meurtrières. Et elles accouchent bien trop souvent de tyrans. J'attire votre attention là-dessus. Les causes sacrées, elles sont toujours religieuses. Je veux dire par là qu'elles veulent toujours être intériorisées par les auditeurs. Elles veulent toujours étendre leur emprise sur l'intime de chacune et de chacun, jusqu'à ce que chacune et chacun soit complètement persuadé que la cause est sacrée. Et c'est pour ça que les chrétiens ne devraient jamais, de leur point de vue, cultiver le religieux. Car la foi chrétienne, ça vise à libérer chacune et chacun de l'emprise d'un ciel inquisiteur et tyrannique. Ça vise à mettre sa confiance dans un Dieu qui, au contraire, est mis à mort par les religieux. Ça devrait nous parler quand même. La foi chrétienne, par essence, est non religieuse. Qu'on y songe bien. C'est la religion, quand elle est comprise comme instance de pouvoir, qui va condamner Jésus à mort. Et l'évangile, ce n'est pas la confirmation d'un Dieu tyran, c'est le dévoilement d'un Dieu serviteur. Vous connaissez nos fondements protestants avec le fameux « à Dieu seul la gloire ». En d'autres termes, seul Dieu est sacré. Mais il nous faudrait immédiatement ajouter, il nous faut immédiatement ajouter. Oui, mais attention, le Dieu qui demeure tout autre, le Dieu qui demeure insaisissable, le Dieu qu'il n'est jamais possible d'enfermer dans nos causes sacrées. Jamais. Il n'est possible de le peindre aux couleurs de ce que l'on imagine être sacré, sinon c'est une idole. Si je voulais être provocateur, je dirais que fond, la seule chose qui soit vraiment sacrée, c'est ce qu'il est impossible de sacraliser. Alors, soit la nature n'est pas sacrée. Au sens biblique du terme, la création n'est pas une sacralisation de la terre, c'est au contraire la possibilité qui nous est offerte de la modifier, de la constituer en habitant, de la constituer en habitat par la parole. Autrement dit, l'ordre naturel n'est pas volonté divine. Pensons-y, qu'est-ce que nous deviendrions si nous nous placions sous la déesse nature? Qu'est-ce que nous deviendrions si nous n'étions soumis qu'au seul déterminisme naturel? Le véritable enjeu, c'est aussi ça. C'est le sens de l'humain. Pas question de faire d'écologie sans en même temps poser la question de l'être humain. Vous savez, la parole humaine, c'est pas seulement un langage codé. Ce n'est pas seulement une transmission d'informations. Parce qu'elle porte en elle-même une pluralité de sens. La parole humaine, par nature, est poétique. Parce qu'elle fait l'humain. À proprement parler. Poésie, ça vient du grec poieo qui veut dire faire. La parole fait l'humain. Pour qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait de la parole. Et pour qu'il y ait de la parole, il faut qu'il y ait de l'humain. Et c'est ça qui fait la différence entre un robot pour qui la parole ne serait que reproduction de signes, de sens, de mots, de sons, de décharges électriques, d'échanges électriques ou électroniques, de choses qui sont déjà encodées. C'est ce qui fait la différence entre ce robot-là et puis le plus petit des êtres humains. Mais vous allez me dire, oui, mais peut-être que la parole fait l'humain, mais la nature aussi fait l'humain. Eh bien sûr, pardi. C'est par nature que nous sommes doués de parole. C'est de chair, de sang, d'os que sont constitués nos corps. Et c'est bien par la chair que passent nos étreintes, que se disent nos élans. C'est bien de recruter notre appareil phonatoire, notre sens de l'ouïe, qu'est possible la parole, bien sûr. Mais la parole a ceci de particulier. Elle fait la place à de l'inédit, à du jamais dit, à du jamais encore dit et du toujours possible à dire. Et en plus, elle peut se moquer d'elle-même. Et là encore, à nouveau, la parole, elle dit même dans ses non-dits. La parole creuse le réel et ne la totalise pas. Quand elle totalise le réel, elle cesse d'être parole. Elle devient slogan ou mot d'ordre. La création, eh bien, c'est la mise en parole de la nature. Et ce n'est pas seulement un changement quantitatif parce que nos neurones sont devenus plus nombreux et que les connexions neuronales sont devenues infiniment plus nombreuses. Non, c'est un changement qualitatif, la création, parce que ça ouvre des possibilités non programmées dans l'ordre du biologique ou dans l'ordre du physique. L'humain ne se réduit pas à du biologique, à du naturel, à de la nature, parce que il devient le poète de son existence. Et cette liberté-là, cette possibilité-là, il ne faut surtout pas la brader. Les églises confondent création et nature, elles visent mal. Elles sacralisent la nature comme si elle était émanation divine. Et du coup, tout ce qui est naturel deviendrait divin et devrait être respecté comme tel. Eh ben non, répondent un certain nombre de protestants, dont moi. L'ordre naturel, et à commencer par la vie biologique, ne sont pas sacrés. Ça fait, je le sais, débat parmi les chrétiens, du côté catholique et du côté évangélique, pour la plupart, l'ordre naturel est bel et bien sacré. C'est la providence de Dieu qui s'exprimerait dans la nature. C'est un vieux débat, vous savez, déjà entre Leibniz et Voltaire quand ils parlaient des tremblements de terre. Est-ce que la nature est sacrée? Est-ce que l'ordre de la nature est divin? Alors on va le dire de façon beaucoup plus concrète. Ce n'est pas des questions en l'air. Est-ce qu'il faut laisser les gens mourir de leur belle mort, prétendument naturelle, même si c'est une mort affreuse, une agonie dans la souffrance physique et morale extrême? Et j'entends bien des voix dans ma chrétienté qui s'élèvent pour tenir que la vie biologique est sacrée, que seul Dieu a le pouvoir et le droit d'y mettre un terme. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne la fait pas plus vite, un peu plus humainement? J'avais naïvement cru, moi, que la passion du Christ, qui a tellement souffert de choses aussi ignobles, signifiait, entre bien d'autres choses, plus jamais ça. Plus jamais ces tourments infligés à un être humain. Alors par quel retournement en est-on arrivé à un tel masochisme, qui bien sûr fait pend à un tel sadisme? Car il ne suffit pas à ces apôtres de la mort naturelle de se les infliger ou de se l'infliger à eux-mêmes. Ils n'ont de cesse de vouloir l'imposer aux autres, que je sache. Une loi sur la fin de vie, ça n'obligerait personne à se suicider. Mais non. L'aumônier prétendument protestant auprès du Cédain, s'est rallié aux courants les plus réactionnaires pour affirmer que la Bible confortait ces courants, confortait cet attachement au sacré de la vie. Confusion entre nature et création. Quand il n'y a plus d'espace entre l'une et l'autre, alors on est sous le diktat de la nature, supposément volonté divine. C'est le même débat à propos de l'avortement. C'est le même débat à propos de la contraception. Les tenants d'un ordre naturel qui serait le reflet de la volonté divine, laisser faire la nature, imposer la nature à tous, même au mépris de la vie humaine, même au mépris de la vie aimée et aimable. Parce que bien sûr que cette vie, notre vie, dépend du biologique, mais elle relève aussi d'une autre, de beaucoup d'autres dimensions, relationnelles, économiques, politiques, sociales, psychologiques, spirituelles, bien sûr. La vie humaine ne se réduit pas, ne peut pas se réduire à la nature. La vie humaine ne peut pas se laisser guider par l'ordre naturel.
Piano side, the guitar moans, and I'm left here aching alone.
Pourtant, bien souvent, en matière écologique, la nature est considérée comme parfaite, sacrée. Il faudrait la vénérer, la laisser nous guider, la copier, l'imiter. Et alors, tous nos malheurs seraient soudain dissipés. C'est une logique que j'entends très très souvent dans les milieux écolos. La nature serait au fond notre alpha et notre oméga. Nous lui appartiendrions, ce serait notre mère, elle nous enfanterait et elle nous accueillerait à la fin de notre existence. Et il est de bon ton de considérer que la mort ne serait qu'un retour chez soi, au bercail, parmi les poussières d'étoiles. Et pour poétique qu'elle soit, l'image est assez insupportable. La vie humaine ne serait-elle qu'un aller-retour incessant de la poussière à la poussière? Certains, et même je dirais beaucoup, le croient assurément. Et ça semble même biblique, on se souvient, tu es de cette parole, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Eh bien, peut-être bien, mais je ne suis pas que poussière. Je suis, nous l'avons dit, je suis aussi relation, je suis avant tout relation. Et mon aller-retour, ça s'appelle l'histoire. Notre vie ne se réduit pas à des échanges chimiques. Il y a du rêve, il y a de l'impossible, il y a de la quête, il y a du désir, il y a de l'inconnu dans toute vie véritablement humaine. Et ça, la nature n'en a que faire. Parce que la nature, elle suit son cours, elle n'a pas de désir, la nature. Elle a des besoins auxquels elle satisfait. Elle a des lois auxquelles elle ne peut pas déroger. La nature est cruelle, mais elle ne le sait pas. Elle ne le fait pas exprès, comme disent les enfants. La nature ne se soucie guère que le cycle qui va de la poussière à la poussière emporte un vieillard dont la vie est remplie de jours, ou bien un enfant de quelques années. Soudain terrassé par une tumeur maligne. La nature ne se soucie guère que le cycle de la vie passe par la douleur que le lion inflige à la gazelle. La nature ne se soucie pas ni de la souffrance ni de l'amour. Pour la nature, l'amour, c'est une affaire de phéromones. Mais pour l'être humain, l'amour, c'est une affaire de parfum. Avec tout ce que cela évoque, convoque. Pour la nature, l'amour, c'est affaire de reproduction, voire d'accouplement. Tandis que pour l'humain, l'amour, ça relève d'un faire l'amour, ça relève d'un art, ça relève d'un éros. Alors je sais, les mêmes mauvaises langues diront que c'est pour ça qu'on a inventé la pilule. Musique. Vous voyez où ça nous entraîne, la distinction entre nature et création? Est-ce que l'être humain a le droit de modifier le cours naturel des choses? Certains diraient même, est-ce que l'être humain a le devoir de modifier le cours naturel des choses? Quelle est notre juste place dans la nature, dans la création? D'un côté, il y a les partisans du respect absolu de la vie naturelle. La vie, pour elles ou pour eux, c'est sacré. La nature est notre mère et notre déesse, on pourrait presque dire la femme de Dieu. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent que l'humain, au contraire, s'érige en maître de la vie, qu'il en soit lui-même le fondement, et qu'il s'affranchisse de toute pesanteur autre que la sienne, et en particulier de toute pesanteur naturelle. La nature serait comme une gangue dont il faudrait s'extraire, sans regarder aux moyens. D'un côté, on renonce à toute contraception, à toute intervention du médical dans la transmission de la vie. Et puis de l'autre, au contraire, on fait les bébés sous l'éprouvette, dans un utérus artificiel, tandis que nos orgasmes viennent superflus, qu'ils sont libérés de l'étreinte charnelle pour être décuplés par quelques électrodes bien placées. Effroyable, n'est-ce pas? J'imagine que vous êtes bien peu nombreux, que nous sommes bien peu nombreux à nous retrouver derrière ces positions extrêmes et caricaturales. La plupart d'entre nous, nous aimerions sans doute des réponses un peu plus nuancées, non? Eh bien justement, les textes bibliques, encore eux, mais peut-on les oublier? Les textes bibliques sont beaucoup plus nuancés. Bien sûr, ils appellent à dominer la nature. On le leur a assez reproché. Mais attention, ils appellent à la dominer à la manière dont Dieu règne sur le monde, avec respect et même avec tendresse, jusqu'à se faire serviteur de la terre. Eh bien, par exemple, en Genèse 2, au verset 5, on lit « Il n'y avait pas encore d'arbres de la campagne sur la terre. Aucune herbe de la campagne n'avait pu pousser, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'humain pour la cultiver. » Savez-vous que la plupart de nos traductions, dont celle de Calvin, disent « pour la labourer. » Et pourtant, le verbe c'est « avad », qui veut dire « servir ». Et si l'avenir était tout compris là, entre labourer et servir. On parlait la dernière fois d'une façon juste d'habiter la terre qui se résumerait en un mot, le mot « responsabilité ». Eh bien, en faisant un pas de plus, si on disait que le mot « responsabilité » se situait justement entre labour et service, entre cultiver la terre, mais la cultiver avec respect. A whiskey glass, my heart it holds, ashes falling, the night's grown old. Midnight ashes burning slow, falling down where the shadows go. Can't stop the time, can't stop the flow. The smoke curls like a broken dream. Salut, à bientôt le mois prochain, si vous voulez bien.
Entre humus et soufre, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.